RCF. Bonjour à toutes et à tous. Les JO, c'est pour bientôt. Dans un peu plus d'un an, les Jeux Olympiques de 2024 s'installeront à Paris, mais pas que, puisqu'ils iront un peu partout en France, à Marseille, à Nantes, mais aussi en Savoie. Des Jeux Olympiques qui vont être historiques pour la France, peut-être l'événement de la décennie pour l'Europe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les meilleurs athlètes du monde entier, sauf peut-être les Russes et les Biélorusses, vont venir se confronter les uns avec les autres. Mais si on confrontait ces Jeux Olympiques à l'économie sociale et solidaire, et si on regardait les 17 objectifs du développement durable et qu'on essayait de rendre ces Jeux responsables, durables, tant sur le plan social qu'environnemental. Alors on pourrait presque imaginer par exemple des haltères qui soient forgés avec les lettres ESS de chaque côté pour signifier l'engagement et le soutien à cette économie alternative. On pourrait aussi imaginer des nageurs qui porteront des combinaisons en matériaux durables et recyclables. Bref, autant d'idées les unes à côté des autres qui pourraient permettre à ces Jeux de sortir du monde de la paillette pour aller dans le monde de l'impact, pour aller à la rencontre de celles et de ceux qui pourraient développer autrement notre territoire. L'agenda 2030 de l'ONU nous invite à cela au travers des 17 objectifs du développement durable, et c'est peut-être la grille de lecture qu'il faudra utiliser aux différents acteurs pour pouvoir promouvoir la santé et le bien-être, pour pouvoir promouvoir une économie durable et responsable. Qui sait, peut-être qu'on mangera local et circuit court dans le village olympique, peut-être d'ailleurs même que des bénévoles se rendront dans des fédérations sportives, iront à la rencontre de personnes délaissées, exclues, et faire un temps de bénévolat en dehors des compétitions ou après leurs compétitions. On peut imaginer plein de choses avec l'économie sociale et solidaire. Mais il faut passer de l'envie d'avoir envie à la réalisation et à l'action. C'est ce qu'on va évoquer d'ailleurs dans cette émission. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions ce samedi midi sur RCF et sur d'autres antennes, mais aussi peut-être en podcast à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes peut-être au cœur de la nuit, vous êtes peut-être au sommet de l'Himalaya. En tout cas, nous on est très très heureux de vous retrouver. Tout cela, c'est du sport chaque semaine que de pouvoir vous proposer un magazine complet de 58 minutes. Et c'est donc de sport que nous allons parler durant cette émission. On va évoquer avec vous les JO de 2024. C'est dans presque maintenant 15-16 mois que vont s'ouvrir les JO à Paris et puis un peu partout en France. Et on va évoquer dans le dossier de l'Écho des Solutions cette place que tient l'économie sociale et solidaire dans la réalisation de ces Jeux Olympiques, et peut-être même qu'on ira au-delà, qu'on évoquera aussi la question de responsabilité d'événements éco-responsables. En tout cas, un dossier qui va être, je l'espère et je le pense, très très riche. On continuera par les sports dans nos 7 minutes pour changer le monde, puisqu'avec le Comité National Olympique Français, eh bien, on évoquera une petite application qui vient de sortir qui s'appelle Ma Petite Sponso. Et oui, les clubs de sport peuvent trouver des sponsors. Et c'est ce que propose le Comité National Olympique pour aider justement à la solidarité et au financement des fédérations et des clubs sportifs. On verra ça avec eux à la fin de cette émission. On retrouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il nous invitera à sortir de notre tombeau, et Maxime Dupont pour sa chronique, un max d'écho. Mais on continue ou on ouvre tout de suite, tout dépend si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière. On continue avec Don Didier Le Gall de l'abbaye de Saint-Vendry. On s'était arrêté la semaine dernière sur la question du management au travers de la règle de Saint-Benoît, de la règle monastique. Et aujourd'hui, eh bien, on va évoquer la question du conflit, en quoi il est possible dans l'entreprise, au travers de la règle de Saint-Benoît, peut-être de trouver des pistes pour la gestion du conflit. On retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Don Didier Le Gall, moine de l'abbaye de Saint-Vendry.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je vous l'annonçais à l'instant, nous sommes avec Don Didier Le Gall de l'abbaye de Saint-Vendry. Bonjour mon frère.
Bonjour Patrick.
Didier Legall, dans la première partie de cet échange, on a évoqué la place de la règle de Saint-Benoît et comment on pouvait faire quelques comparaisons ou comment elle pouvait être prise en compte dans le monde de l'entreprise. Et juste avant cette pause musicale, on évoquait ce triptyque, un don, pardon, communion. Qui dit pardon dit aussi que parfois il peut y avoir des crises dans nos communautés humaines. Comment est gérée, avant de voir quels sont les leviers qui peuvent être actionnés dans l'entreprise, mais comment on gère la crise à l'intérieur d'une communauté humaine telle qu'une abbaye, qui est un monde clos, fermé, où finalement, on l'a vu, il y a une gouvernance synodale, et à un moment donné, il y a des crises et il faut pouvoir les gérer.
En fait, ce qui est très intéressant dans la règle, c'est qu'on a tous les éléments qui nous permettent d'identifier par rapport à un chapitre de la règle où se situe notre problème et comment, quels outils on va utiliser dans la règle pour lever ces conflits. Donc le conflit, il est de toutes sortes, hein, dans un master. Il peut être conflit de génération, conflit de sociaux. On a tous les milieux sociaux chez nous, donc des conflits aussi intérieurs. C'est ce qu'on a très souvent qui se traduisent par l'acédie, l'atonie de l'âme, c'est-à-dire le mal-être intérieur. L'abbé est là pour nous aider à gérer ce conflit. Et si on a un conflit avec l'abbé, eh bien on prend un médiateur. La figure de la médiation dans la règle est une figure incroyable. Hein.
Et Thierry, que vous allez chercher en dehors de l'abbaye, bien évidemment, c'est-à-dire vous allez chez les frères bénédictins chercher quelqu'un d'autre.
Alors ça peut être à l'intérieur, comme ça peut être à l'extérieur. Et donc après, on a plein d'outils. Il y a un outil que j'aime bien nommer parce qu'il m'avait étonné quand je suis rentré au monastère, parce qu'il s'est un peu poussiéreux, à mon avis, à l'origine, qui s'appelle le chapitre des culpes. Donc, je bats ma culpe. Et en fait, c'est tous les soirs, avant les complis, le dernier office du jour, on a un temps de silence en communauté. Et au signal de l'abbé, celui qui a quelque chose à dire, parce qu'il a blessé la communauté, se lève et dit ce qu'il a à dire. Donc, pour les chrétiens, on dirait que c'est du fort externe, c'est-à-dire blessure publique, réparation publique. Mais c'est en toute liberté. C'est-à-dire qu'on énonce ce qu'on a à dire. Par exemple, je me suis mis en colère lors d'un temps communautaire et j'ai blessé la communauté. Le soir, je me lève et je dis, je suis désolé d'avoir blessé la communauté en étant hors de moi.
Ça demande énormément d'humilité. C'est un vrai travail sur soi-même que de savoir à un moment donné. Et encore, il y a la partie j'ai blessé la communauté. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des choses beaucoup plus profondes? Vous parliez d'acédie aussi. Ça peut être aussi des moments qui deviennent des moments très forts à l'intérieur de la communauté.
Oui, alors en fait, il y a ce qui peut se faire immédiatement parce que ce n'est pas trop coûteux. Et puis après, il y a des choses qui peuvent être longues. C'est-à-dire que. On reste des êtres humains dans une communauté monastique. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport au monde de l'entreprise, c'est que il y a des moments où il faut accepter un temps long parce que la blessure a été il faut laisser à chacun le temps pour parvenir à un vrai pardon. Et donc ça c'est le temps ne nous fait pas peur. La seule chose qui pourrait faire peur c'est de nier le conflit.
C'est ça.
Parce qu'à ce moment-là, c'est le meilleur moyen d'envenimer les choses.
Alors justement, si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, qu'est-ce que dans cette manière de gérer le conflit, la règle de Saint-Benoît peut nous dire de la gouvernance aujourd'hui en entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait venir saisir, un peu comme on est venu saisir quelques outils de management tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait venir saisir justement pour la gestion des conflits? La médiation peut-être dans un premier temps?
En fait, la médiation pour moi c'est un deuxième temps, c'est-à-dire que quand la relation directe ne fonctionne pas, à ce moment-là on va chercher un tiers. Mais je pense qu'un des éléments majeurs, c'est pour reboucler par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la qualité d'écoute des managers. C'est-à-dire que des fois, on a des collaborateurs qui peuvent être en conflit. Ce qui est intéressant, c'est que parce que le manager apprend à écouter, à regarder et donc à aimer ses collaborateurs, il est capable de discerner une tension et donc d'aider à désamorcer cette tension. Et ça, je pense que le mot peut des fois faire sourire, mais aimer ses collaborateurs est quelque chose d'essentiel, comme l'abbé doit aimer chacun, sans acception de personne, dit Saint-Benoît. Ne pas préférer l'un à l'autre. L'aimer pour ce qu'il est, tel qu'il est,
Et pas pour ce qu'on aimerait qu'il soit, en fait, c'est ça. L'accueillir.
Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le monde de l'entreprise. Parce que si on n'apprend pas à aimer ses collaborateurs, comment on peut discerner d'abord ses talents, comment on peut discerner éventuellement ses conflits, comment on peut l'accompagner. Voilà, pour moi, ça, ce sont des éléments.
Un gros travail hein, aujourd'hui, parce que comme vous le dites, c'est pas quelque chose de commun. Dire à un manager la première clé pour ton leadership, ça va être d'aimer. Je pense pas que ce soit extrêmement facile, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de formations sur cette thématique.
Alors, il y a un ancien président des EDC, Robert Leblanc, qui est le patron de E.ON France, qui a sorti un bouquin dans lequel la trame, c'est ça, hein, c'est aimer ses collaborateurs.
Bah écoutez, on va renvoyer nos auditeurs à cet ouvrage alors.
il a osé écrire ce bouquin alors qu'il est toujours en exercice dans sa compagnie d'assurance.
Et donc pour vous, le deuxième levier après le fait d'aimer, ça va être dans la gestion du conflit, ça va être de trouver des solutions avant de passer à la médiation.
Voilà, c'est en fait le document maître, c'est ça qui manque beaucoup à l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise. Elle a le droit de l'entreprise, mais généralement quand on l'utilise, c'est un peu tard, quoi. Alors que nous, on a la règle, une règle de vie. Et donc, on va chercher dans la règle quels sont les lieux sur lesquels, en fait, on pourrait avoir
un point d'appui.
Un point d'appui pour régler ce conflit. Mmh. Donc, ça peut être un chapitre, je sais pas, moi, sur les instruments des bonnes œuvres, parce que là, on a un énoncé de ce qu'il faut faire pour faire bien. Ça peut être le chapitre sur l'humilité, ça peut être le chapitre sur l'AB si on a une tension avec l'AB. Et donc, en voyant où le clignotant va se mettre en mouvement, on pourra se dire, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Comment je répare? Parce que ça, c'est la limite entre le monastère et l'entreprise. On est toujours dans une recherche de retour à la communion.
C'est ça.
Et on n'est pas dans la recherche d'un compromis. Le compromis, c'est chacun fait 50% du chemin. Alors que là, comment on a une règle, on se dit, mais est-ce que si on est en communion avec la règle, comment on peut être en division entre nous? Donc, retrouvons cette communion avec la règle pour être en communion entre nous. Donc, c'est toujours une recherche de communion. Sinon, c'est impossible. Enfin, surtout dans un lieu fermé.
Et d'ailleurs, ça peut mener d'ailleurs jusqu'à l'exclusion à un moment donné, quand on n'arrive plus à rentrer en communion avec l'équipe.
Voilà, et donc le Saint-Benoît est aussi très pragmatique. Hein. Il y a deux cas de figure, c'est le rejet de fait, c'est-à-dire que le frère qui se sépare de la communauté de son propre fait, ou le renvoi. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Benoît...
Le bien de la communauté nécessite, et le bien de la personne nécessite qu'il y ait séparation.
Exactement. Donc, c'est pas béni oui-oui, quoi. Enfin, ouais.
Bon.
La gestion des conflits est toujours un combat pour la vie. Mais à un moment donné, on peut ne pas parvenir au résultat escompté. Et donc, il faut l'accepter.
Il faut l'accepter comme tel. Merci beaucoup, Don Didier Legal. On arrive au terme de ce long échange autour de la règle de Saint-Benoît et le management de nos entreprises au regard de la règle monastique. Merci de ce temps que l'on a eu avec vous. Et nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon qui nous revient de congé après cette grande semaine sainte. Et avec lui, on évoque la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de nos tombeaux quand on est chef d'entreprise? On retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon après cette grande fête de Pâques. Nous sommes dans la première semaine de l'octave et vous avez voulu, Pierre, nous parler de la façon dont nous pouvions utiliser cet élan de la résurrection dans nos vies de dirigeants. Quelles leçons voulez-vous tirer de ce week-end pascal, Pierre ?
C'est vrai que nous venons de vivre la résurrection du Christ, vainqueur de la mort, vainqueur de nos morts. Le Christ est un premier de cordée, il nous ouvre le chemin, il nous invite à le suivre car nous ne pouvons pas tout attendre de lui. Il faut, et c'est ce que je voudrais essayer de dire ici, consentir à la vie, il faut sortir de nos tombeaux pour revenir à la vie.
Alors, vous parlez de nos tombeaux, mais quels sont nos tombeaux, Pierre ?
À chacun de répondre à cette question, mais elle mérite, je crois, quelques minutes d'introspection personnelle. Pour certains, ce sera un sentiment de solitude et d'inquiétude constante. Pour d'autres dirigeants, ce sera un regard systématiquement négatif sur le monde. Pour d'autres encore, un ego mal placé, qui sait ? Nous avons tous des tombeaux, des grottes ou des sépulcres qui nous enfoncent un peu plus profond dans nos morts. Alors face à cela, il existe deux possibilités. Soit nous nous laissons dominer et la vie s'éteint peu à peu, soit nous nous levons pour lutter contre ces morts et les vaincre avec le Christ. C'est ce que nous rappelle, je crois, Pâques. C'est qu'avec le Christ, il faut entrer dans le mouvement de la vie et lutter contre ce qui est mort, inerte, figé, immobile, prostré. Il faut sortir du sépulcre.
Alors tout cela est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ?
Je l'ai dit, je crois qu'il faut d'abord répondre à cette question de façon très personnelle. Quels sont mes tombeaux ? Et puis, il faut combattre, car nous avons cette incroyable chance de pouvoir choisir. Nous pouvons exercer notre liberté de décider, et la liberté de dominer nos morts et de les vaincre.
Ce qui veut dire quoi, concrètement, Pierre ?
La réalité, c'est que seul le mouvement manifeste la vie. Il faut donc prendre des décisions de bouger sur ses propres lignes. Par exemple, regarder ses collaborateurs avec confiance, s'obliger à sourire malgré les soucis dus à des problèmes de carnet de commandes ou de trésorerie, que sais-je, rester dans l'espérance en s'efforçant de tenir un discours réaliste mais qui donne des perspectives, consentir au réel sans chercher à regarder ailleurs, etc. Alors c'est concret, cela passe par des mots, des attitudes, des regards, des gestes, et si parfois c'est difficile, c'est que c'est le seul moyen de grandir, de lâcher quelque chose ou de nous emparer d'autres choses pour devenir plus vivant, plus joyeux, plus fécond et donc plus grand. Alors j'ose, si vous voulez bien, cette conclusion. Consentons, osons faire un pas, accueillir et agir, et emparons-nous de la résurrection pour ressusciter nous aussi.
Merci beaucoup Pierre pour nous avoir évoqué cette question de comment sortir de nos tombeaux. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après pour évoquer avec nos invités une question totalement différente puisqu'on évoquera la place de l'économie sociale et solidaire dans les JO 2024. C'est le thème du dossier de l'écho des solutions, mais on part tout de suite nous en musique et on se retrouve d'ici quelques minutes avec tous nos invités. Merci beaucoup Pierre, à bientôt, au revoir. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers, you could be casually dating, damn it's all changing so fast. I see a love Camila Cabello et Ed Sheeran dans Bam Bam. Allez, on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'écho des solutions. On va évoquer la question des JO 2024 et de l'économie sociale et solidaire. Quel lien peut-on faire entre les deux ? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques microsecondes, juste après un petit jingle.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. Vous le savez, on va parler des JO, les JO 2024. On est à 15-16 mois de l'ouverture des JO. Et on va parler de ces Jeux Olympiques, mais on va en parler au travers de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce donc que ce lien entre les Jeux Olympiques et l'économie sociale et solidaire? Eh bien, ça a été une volonté de Paris 2024 de pouvoir proposer à ce secteur de l'activité économique française qui aujourd'hui concentre 10% de la population qui travaille dans l'économie sociale et solidaire de pouvoir bénéficier, on va dire, de la manne économique, des retombées économiques de ces JO. Et pour nous accompagner, eh bien, je suis avec trois intervenants, un troisième qui va nous rejoindre très prochainement et un premier qui va nous quitter assez rapidement aussi. Je vous les présente rapidement. Tout d'abord, Gilles Verdure, vous êtes manager attractivité économique, sociale et territoriale, rien que ça, à Paris 2024. Bonjour Gilles.
Bonjour, merci d'être avec vous ce matin.
Merci beaucoup. Et puis Clémentine Wolf, vous êtes chef de projet ESS 2024 au Cano. On verra avec vous ce que sont les canaux et en quoi ils prennent part à ce déploiement de l'économie sociale et solidaire pour les JO. Et puis on a aussi le plaisir d'avoir Benoît Gosseron, qui est directeur Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 pour le groupe BPCE. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Les JO 2024 pourraient-ils servir de catalyseur pour aider justement à lutter contre le chômage, la précarité? Est-ce que c'est un bon levier pour répondre aux 17 objectifs du développement durable de l'ONU? C'est ce qu'on va voir avec l'ensemble de nos parties prenantes. Je vais commencer avec vous, Gilles, parce que vous êtes donc le manager attractivité économique, sociale et territoriale Paris 2024. En présentant un petit peu l'idée globale, on va parler d'économie sociale et solidaire, mais l'idée globale, c'est que ces JO ne restent pas uniquement des JO pour Paris, mais qu'il y ait un après ces JO et qu'on développe, que ce soit un levier de développement économique et territorial, en plus du déploiement de l'économie sociale et solidaire.
Oui, tout à fait, vous avez raison, qu'il y a un avant, un pendant et un après. Sur le pendant et tout ce qui relève de la cérémonie, des compétitions, etc., effectivement, ça n'est pas l'objet du jour. En revanche, sur l'avant et l'après, effectivement, l'idée et l'ambition de Paris 2024, c'est de faire un événement qui ne soit pas complètement hors sol, mais qui puisse intégrer l'ensemble de la population et notamment les acteurs économiques et les acteurs économiques les plus performants à l'échelle sociale.
Alors, l'économie sociale et solidaire, ça a été un parti pris dès le départ hein, pour Paris 2024. C'est une demande du CIO ou c'est vraiment une initiative de Paris 2024?
Oui, c'est une demande du CIO depuis Londres 2012. Il y a une volonté de la part du CIO et des comités d'organisation de faire des jeux de plus en plus socialement et écologiquement responsables, d'avoir une dimension héritage très forte. Vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on laisse en héritage aux pays organisateurs et aux villes organisatrices? Et puis, ça a été une volonté plus affirmée encore de la part de Paris 2024 dès la candidature, de faire des jeux qui soient complètement connectés au pays sur cette dimension sociale et écologique et d'avoir à la fois une ambition qu'on décrète, qu'on défend bec et ongle, mais aussi qu'on met en œuvre quotidiennement avec une méthodologie éprouvée et des outils pour le suivre au plus près. Donc c'est à la fois l'idée de se dire, comme vous l'évoquiez en introduction, d'avoir un événement qui sert de levier, qui ne résout pas tout évidemment, mais qui sert de levier et qui puisse être un très bon démonstrateur, et un démonstrateur qu'on laissera en héritage là aussi, un très bon démonstrateur de méthodes, de dispositifs, d'actions, d'initiatives qui sont en faveur de la performance sociale et environnementale dans l'organisation d'événements sportifs.
Comment justement on implique un petit peu tout cet écosystème aujourd'hui? On en est où? Alors c'est peut-être Clémentine qui pourra peut-être répondre davantage à cette question, mais on en est où de cette ambition qui a été posée dès le départ d'inclure l'économie sociale et solidaire? Est-ce que finalement c'est plus compliqué que d'autres entreprises à adresser?
Peut-être quelques éléments de réponse,
oui.
et puis
je laisse la parole à Clémentine.
On fera deux voix avec Clémentine. Mais très concrètement, comment on fait? Dans un premier temps, on va voir les entreprises très en amont. On leur parle et on leur explique nos ambitions et on leur dit qu'on a besoin qu'elle soit au rendez-vous des Jeux dans les marchés de Paris 2024. Ça, c'est la première chose. Et on s'est appuyé notamment sur le groupe BPCE pour le faire. On a fait plus de 60 déplacements partout en France, dont une grande partie dans le cadre de la tournée Entreprendre 2024 du groupe BPCE. Et donc, de ce point de vue-là, on va voir les entreprises et on leur dit « soyez au rendez-vous des marchés des Jeux ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment le décliner dans le cadre d'une stratégie responsable des achats, comment on détermine des indicateurs, des objectifs précis, des thématiques sur lesquelles on veut œuvrer. Et dans ce cadre-là, la stratégie responsable des achats, elle indique qu'il y a un pilier fondamental qui s'appelle création de valeur sur les territoires, où on va identifier les TPE-PME et les structures de l'économie sociale et solidaire, et on va suivre les résultats qu'on obtient tout au long des marchés. Alors, donc, ce sont nos deux gros outils. Et puis ensuite, on s'appuie sur la plateforme entre
ESS 2024, hein, qui a été créée vraiment pour porter qui soit la. C'est, en fait, c'est le portail d'entrée, c'est ça, Clémentine, ESS 2024, la plateforme. C'est le portail d'entrée pour les entreprises qui souhaiteraient. Je sais pas d'ailleurs, une question que j'ai pas posée. C'est encore possible? Il y a encore des appels à projets pour l'économie sociale et solidaire, ou à 16 mois des Jeux, on arrive plutôt sur la fin, ça va être plus compliqué de se positionner?
On arrive plutôt sur la fin. Premièrement, évidemment, à un an des Jeux, on a désigné une grande partie de nos attributeurs du marché. Il reste encore des opportunités pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et surtout, il reste des opportunités pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire auprès de nos attributeurs de marché en sous-traitance.
C'est ça.
Et donc, l'idée, c'est sur la dernière année de les connecter à nos attributeurs, à ceux qu'on a désignés pour, là aussi, sur la création de valeur sur les territoires d'intervention, là où toutes les compétitions auront lieu, d'avoir les acteurs de l'ESS qui soient présents aux côtés des entreprises qui ont été retenues.
Alors Clémentine, comment on anime cette plateforme ESS 2024 ?
Bah, c'est une très bonne question. C'est une plateforme qui est née en même temps que le projet des Jeux et qui a permis de référencer aujourd'hui quasiment 6000 entreprises partout en France, TPE, PME engagées, mais aussi les structures de l'ESS. C'est un travail qui a été permis, comme le disait Gilles, grâce au concours du groupe BPCE et de l'ensemble des partenaires têtes de réseau, fédérations d'entreprises, à l'échelle du pays. Aujourd'hui, ce référencement d'entreprise, il a permis d'informer et d'accompagner plus d'une centaine d'entreprises à capter des opportunités économiques liées au jeu. Aujourd'hui, c'est plus de 360 prestations qui sont réalisées par des structures de l'ESS, et on sait que un grand nombre reste encore à faire, à créer. Il y a plein de belles histoires qui sont en cours de route, sans vouloir spoiler ce qui va se passer en 2024, mais effectivement, un grand nombre de ces prestations vont se faire aux côtés des opérateurs de livraison des jeux, comme on les appelle, des grandes entreprises qui ont été retenues par Paris 2024. Et là, on enclenche un travail de petite fourmi à leur côté pour essayer de faire en sorte que leurs prestations puissent se réaliser avec des acteurs.
Alors,
comment
on anime tout cet écosystème? Parce que l'économie sociale et solidaire, ce sont souvent des petites structures. Alors, évidemment, sauf le groupe BPCE et quelques qui sont dans l'économie sociale et solidaire, hein, Benoît, je ne me trompe pas, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, mais vous faites partie des très gros dans l'économie sociale et solidaire.
En effet, Patrick, avec nos banques populaires, nos caisses d'épargne, on finance à peu près chaque année près de 2 milliards d'euros qui sont alloués à des coopératives, à des mutuelles, à des entreprises sociales, à des associations, évidemment, ce qui fait que nous sommes le premier acteur en termes de financement de l'économie sociale et solidaire, et qui pour nos banques populaires, et puis, pour nos caisses d'épargne et pour l'ensemble du groupe BPCE, est une économie.
Et puis vous êtes vous-même dans l'économie sociale et solidaire de par le système coopératif qui est le vôtre. Enfin, je veux dire, vos clients sont vos sociétaires. D'autres groupes communiquent largement là-dessus, mais vous aussi, vous êtes un groupe mutualiste coopératif qui est dans cette forme de gouvernance dans l'économie sociale et solidaire. Ma question, Clémentine, c'était justement comment on accompagne les plus petites structures qui, voilà, les JO, c'est vraiment un événement planétaire qui va être à Paris. Il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des complexités dans le fait de travailler avec cette énorme structure. Comment on accompagne cet écosystème qui va découvrir finalement des appels d'offres planétaires presque?
C'est tout à fait vrai. Ça a été un gros travail en plein Covid d'ailleurs, de sensibilisation, d'information de ces entreprises en collaboration avec un certain nombre de partenaires. Donc il y a eu du temps pris pour intégré l'idée dans les têtes de chacun chacune qu'il était possible d'être sur la même ligne de départ que des entreprises qui avaient un peu plus les moyens, notamment des moyens de veille commerciale, et pour qui c'est assez simple de répondre à un appel d'offres public. Il faut savoir que dans le cadre des jeux, ce sont essentiellement des appels qui répondent au code de la commande publique qui sont passés, et ce sont c'est un code de commande publique qui est assez lourd en termes administratifs, en tout cas plus que quand une entreprise vient vous voir et vous demande un devis pour faire une prestation de restauration par exemple. Là dans le cadre des jeux, on est sur des dossiers qui sont un peu plus complets, des demandes qui sont rapides parce que souvent il y a un mois et demi pour répondre. C'est des choses auxquelles les structures sont pas les plus préparées, en tout cas celles de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a eu un vrai travail d'information, de mobilisation pour leur dire attention, ça arrive. Et puis aujourd'hui, on continue un travail de formation pour les accompagner à se positionner au moment où leur tour viendra sur des appels d'offres. Donc il y a une vraie, il y a plutôt trois branches d'activité, l'information, la mobilisation, la formation au plus près des territoires et de leurs enjeux, et l'accompagnement au moment où elles en ont le plus besoin sur des appels d'offres qui leur correspondent.
Gilles, vous allez devoir nous quitter, donc je vais vous poser une ou deux questions avant que vous ne partiez, parce que alors on a de la chance, on est à 16 mois des JO, mais je pense que plus ça va avancer, plus votre temps sera compté. Pour vous, ces JO et l'ESS seront réussis si, point de suspension.
Deux choses. En fonction des résultats qu'on aura obtenus sur le nombre de structures de l'économie sociale et solidaire qui auront répondu, c'est déjà loin d'être négligeable aujourd'hui. Donc, on va pas crier victoire désormais.
Vous arrivez à l'objectif que vous vous étiez fixé?
Mais en tout cas, on est sur un pourcentage d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les marchés de Paris 2024, en direct ou en sous-traitance, qui est loin d'être négligeable. Et donc, du coup, tout le travail méthodologique que vient de décrire Clémentine a d'ores et déjà en partie fonctionné. Mais évidemment, ce sera la ligne d'arrivée qu'on arrivera à voir si on est à la hauteur de nos ambitions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose en termes de réussite, c'est si on est en mesure aussi de laisser en héritage cette fameuse méthodologie qui consiste à aller sur le terrain, présenter les opportunités, à accompagner les entreprises au plus près de leurs besoins, notamment en termes de formation, en termes d'accompagnement pédagogique, pour qu'elles se disent que ces opportunités sont pour elles. Et ça peut servir évidemment bien au-delà des jeux.
Bien sûr.
Ce serait la deuxième réussite, me semble-t-il.
Il y a des éléments de mesure ou d'outils de mesure d'impact, mais c'est peut-être Clémentine qui saura peut-être mieux en parler, qui vont nous permettre de dire en 2025, 2026, bah voilà ce que pour l'économie sociale et solidaire, ça a produit ces JO. Clémentine, peut-être?
Oui, alors on suit avec attention toutes les attributions de marché, donc en fait toutes les entreprises qui au fur et à mesure sont annoncées comme allant prester dans le cadre des jeux. On travaille avec Paris 2024 pour identifier celles qui sont en sous-traitance pour pouvoir les valoriser du mieux possible, en suivant bien sûr les règles assez contraignantes, c'est vrai, du Comité international olympique, puisque la marque des Jeux est très protégée, donc on n'a pas le droit de dire que telle ou telle entreprise travaille dans le cadre des Jeux comme ça. C'est quelque chose qui est très réfléchi et sur lequel on travaille. Et puis, de manière plus globale, l'ensemble des choses mises en place par Paris 2024, des dispositifs, là on parle beaucoup des achats et de l'ESS, mais il y a aussi tout l'impact social des projets plutôt associatifs qui sont soutenus par Paris 2024 via son fonds de dotation, qui sont suivis de très près et qui feront partie de l'héritage des Jeux. Ils seront évidemment calculés et rendus publics.
On reviendra là-dessus, mais je vais d'abord laisser la possibilité à Gilles de nous quitter. Merci beaucoup Gilles Verdure d'avoir été présent dans cette émission. Bon courage pour les JO de 2024. J'espère qu'on se retrouvera. Moi, il y a d'autres sujets qui m'intéressent particulièrement, l'éco-responsabilité des Jeux, parce que on le sait peut-être pas, mais depuis 2012 et les Jeux Olympiques de Londres, il y a un label ISO pour l'éco-responsabilité événementielle, dont aujourd'hui certaines structures locales, d'ailleurs issues de l'ESS, s'emparent pour pouvoir Absolument. Aller plus loin. On pourra en rediscuter dans l'éco
Avec
des solutions.
Plaisir.
À bientôt Gilles Verdure, merci beaucoup.
Merci.
Benoît Gosseron, on en a parlé un petit peu de la BPCE. Oui. On sent bien que c'est un trio, Paris 2024, les canaux, BPCE, vous travaillez les uns avec les autres. Comment justement, Gilles nous en l'évoquait, vous avez fait une tournée en France pour aller dire aux entreprises, dans vos marques, Banque Pop, Caisse d'Épargne et autres marques, Crédit Coopératif, pour dire, allez-y les entreprises, c'est bon, il y a du business pour vous.
Avec en effet, nos banques populaires, nos caisses d'épargne en région, on a 29 entreprises en région. Nous sommes allés, avec l'appui des canaux, organiser en effet ce grand tour de France pour aller sensibiliser plus de 3000 entreprises partout, dans tous les territoires, pour leur dire il y a des opportunités exceptionnelles, et pas seulement à Paris, pas seulement en Ile-de-France, pas seulement pour les grandes entreprises, mais aussi, bien évidemment, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des opportunités de business, de développement, de croissance pour répondre aux appels d'offres. Et ça a plutôt super bien marché, puisqu'on a aujourd'hui près de 350 au total de nos clients en région qui sont lauréats de ces appels d'offres, dont un grand nombre de structures de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être un point complémentaire, c'est qu'on a 40% de ces lauréats qui viennent des régions françaises. Et donc, ce sont en effet des jeux qui profitent
à l'ensemble du territoire.
L'ensemble des territoires. Et ça, c'est super important pour un groupe ancré dans les territoires, décentralisé comme le nôtre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien, et des groupes bancaires, et c'est pas mal dire que de dire ça, mais c'est aussi construire l'avenir avec ces entreprises. Comment, au-delà de simplement avoir mobilisé votre réseau pour dire il y a du business, vous allez accompagner, et on en parlait tout à l'heure quand on parlait de la taille de ces entreprises, certaines vont devoir peut-être croître très rapidement avec des appels d'offres, des volumes qu'elles n'avaient peut-être pas l'habitude de gérer. Comment est-ce que vous mobilisez les expertises du réseau pour accompagner ces entreprises, pour pas qu'elles coulent, en fait, ce serait dommage que ces JO qui veulent être un levier de l'ESS viennent mettre en difficulté des entreprises qui font de belles choses sur les territoires.
Les jeux, c'est un formidable accélérateur pour donner à voir cette filière de l'économie sociale et solidaire et pour pouvoir les accompagner. Il y a énormément d'entrepreneurs sociaux que l'on doit accompagner, et en tant que banquier, en tant que gestionnaire d'épargne, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner à 360 degrés, c'est au début, mais aussi dans leur croissance et dans leur développement, dans leur financement, sans rentrer dans la technique, que ce soit des financements de court terme, des financements de moyen terme, que ce soit la gestion des flux, mais aussi des produits qui sont intéressants pour le grand public, et pour vos auditeurs. Par exemple, il y a des produits d'épargne salariale avec Natixis Interépargne qui permettent à des épargnants de flécher leur épargne sur l'économie sociale et solidaire, et ça c'est extrêmement important.
Clémentine, on parlait de ces entreprises qui vont peut-être devoir croître, celles aussi, et Gilles en parlait juste avant de nous quitter, de ces prestataires qui eux aussi vont faire appel à des prestataires. Je pense par exemple à tout ce qui est restauration. Sodexo va pas pouvoir gérer l'ensemble de ces sites et va donc faire appel à des entreprises, et on sait qu'une des difficultés, et même des grosses entreprises disent c'est toujours compliqué de passer par le système des achats parce qu'on nous demande des dossiers qui doivent répondre à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, puis après au niveau de l'achat public. Comment on fait pour mettre en relation et aider ces petites entreprises à bien répondre et à travailler pertinemment avec les acheteurs?
Ouais, ce qui est assez intéressant dans la méthode, c'est que on travaille de concert avec Paris 2024 et un certain nombre de partenaires pour faire en sorte de connecter ces grands opérateurs, vous avez mentionné Sodexo, ça en fait partie, pour les mettre en lien avec les acteurs plus petits, proches de leur territoire de livraison de prestations, pour qu'elles puissent les solliciter dans le cadre des jeux. C'est pas toujours facile parce que certains ont des pratiques très ancrées avec des sous-traitants traditionnels qui correspondent pas forcément aux ambitions, enfin à la traduction des ambitions de Paris 2024 dans la réalisation des prestations. À titre d'exemple, c'est beaucoup plus simple dans une prestation de travailler avec ceux avec qui on a souvent eu l'habitude de travailler parce qu'on veut pas se louper dans le cadre des jeux et c'est plus confortable. En revanche, ces prestataires-là, ces sous-traitants, ne correspondent pas forcément aux obligations d'insertion. Si on ne cite que ça, par exemple, vous citiez Sodexo, ils ont un certain pourcentage de d'heures de à réaliser, de travail qui doivent être réalisées par des personnes en situation d'insertion professionnelle et de handicap.
Donc ça va rentrer dans leur quota, comme on dit, j'aime pas le mot de quota, mais c'est dans leurs obligations, dans leur cadre légal.
C'est un levier de la commande publique pour faire en sorte de soutenir l'emploi de parcours éloignés du monde du travail et de personnes en situation de handicap. Et les jeux sont assez exemplaires là-dessus, parce que c'eût été sur les chantiers olympiques et paralympiques ou dans les prestations type restauration, mais on pourrait en citer d'autres, la sécurité c'est pareil, l'ameublement ça en fait partie également. Donc tous les types de marchés qui ont été passés et tous les besoins des jeux vont se traduire par des obligations d'insertion, mais aussi des obligations environnementales. Je pense notamment à la seconde vie des produits. Il y a une vraie volonté que l'ensemble de ce qui pourrait être considéré comme un déchet ne le soit pas. Donc c'est un travail tous les jours, très quotidien, auprès des grandes entreprises qui ont gagné des marchés publics, souvent assez costauds en termes de dossiers à rendre, on l'a dit, pour trouver des entreprises en sous-traitance et leur permettre d'avoir une part du gâteau des jeux. Alors, on ne peut pas promettre à tout le monde, évidemment, d'avoir sa part, mais en tout cas, rien que le fait d'essayer, on a pas mal d'entreprises qui nous disent « j'ai essayé de répondre à un marché public, c'était la première fois, vous m'avez accompagné, vous m'avez formé, j'ai pas réussi, mais au moins, j'ai pris de l'expérience et au prochain coup, que ce soit dans les jeux ou ailleurs, et ça, je pense que ça fait partie intégrante de l'héritage des jeux, le fait d'avoir essayé dans le cadre des jeux, que ce soit un échec ou une réussite, c'est de l'expérience emmagasinée pour la suite et potentiellement un développement business sur les sujets d'achat public.
Benoît, je sais par indiscrétion, je ne sais pas si c'est une indiscrétion totale, mais que au moins les banques populaires, mais je pense que l'ensemble du groupe BPCE a mobilisé ses collaborateurs pour être bénévoles le temps d'une journée, d'une demi-journée, de deux jours. Est-ce que vous allez le faire vis-à-vis de vos clients aussi, Benoît ?
L'aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, elle a commencé dès 2019 pour nous. Notre projet, notre promesse, c'est de partager ces Jeux avec le plus grand nombre, avec évidemment nos 100 000 collaborateurs, avec nos 35 millions de clients, avec nos 9 millions de sociétaires, avec le grand public. Et on va le faire par tous les moyens, avec la dernière des énergies, hein, parce que ce rendez-vous est exceptionnel. Et il commence avant. Il doit perdurer après avec cette notion d'héritage. Et nos clients, nos sociétaires, le grand public auront plein d'opportunités d'y prendre part. Quelques exemples super concrets. Nous aurons des porteurs de la flamme pendant cette formidable aventure du relais de la flamme qui arrivera en juillet à Paris. Deuxième exemple, nous aurons des centaines de collaborateurs qui seront volontaires.
C'est ça.
Près de 1000 volontaires, parmi les 45 000 volontaires du comité d'organisation des Jeux, qui seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, pendant une dizaine de jours, pour aider les athlètes, pour contribuer à la logistique, et pour contribuer à la performance sportive. Vous voyez, c'est une aventure collective qui ne s'arrête pas à nos bornes. On mobilise les clients, on mobilise les sociétaires et on mobilise le grand public.
Clémentine, l'élément de langage que j'entends depuis le début de nos échanges, c'est la notion d'héritage. Vraiment, il y a cette volonté de se dire que c'est pas juste un feu de paille, ces JO. Que, alors c'est vrai, on a la chance en France d'avoir 95% du parc olympique déjà construit. Donc ça veut dire qu'on peut construire autre chose qui est peut-être plus immatériel, mais qui va répondre à une dynamique, peut-être même à une relance, comme le voudrait le gouvernement, une relance 2030 de notre industrie, de nos emplois, de la formation, de l'emploi et des entreprises et du tissu économique.
C'est exactement ça. Alors les Jeux pourront pas tout faire, mais à l'inverse de certaines éditions des Jeux qui ont engagé beaucoup d'argent public pour construire des infrastructures et finalement ne pas réfléchir à l'après dans leur utilisation, donc des infrastructures qui ne servent aujourd'hui pas à grand chose et qu'on appelle généralement des éléphants blancs. Pour Paris 2024, ça n'a pas été le cas. Et dès la candidature, et c'est entre autres ce qui a fait la différence avec Los Angeles qui a eu les Jeux pour 2028, c'était qu'en France, il y avait assez peu à construire. On allait se doter d'infrastructures réfléchies pour leur utilisation après coup. C'est le cas en face du Stade de France avec le Centre Aquatique Olympique, dans un département où à l'entrée en sixième, quasiment la moitié des jeunes ne savent pas nager, donc qui est particulièrement dépourvu d'infrastructures type piscine. Donc il y a cet héritage matériel qui a été construit dès le départ, mais effectivement l'héritage immatériel, que ce soit sur le handicap, sur l'économie sociale et solidaire ou encore sur l'accessibilité physique des personnes, c'est quelque chose qui est très important, qui est au cœur du projet de Paris 2024. C'est pas juste deux fois deux semaines de compétition, un espèce de one shot gigantesque. Ça peut l'être dans les yeux de certaines personnes. En revanche, il y a la suite qui est pensée depuis le début.
C'est-à-dire, c'est construire pour durer. On parlait d'économie sociale et solidaire. Vous parliez, vous, de la natation. Mais on peut penser aussi aux constructions d'habitations du village olympique qui va peut-être, et qui, je crois même, est, une partie, en tout cas, va être consacrée à l'habitat social en Seine-Saint-Denis parce qu'aujourd'hui, on en manque et que, finalement, c'est une bonne excuse c'est une bonne excuse de pouvoir utiliser ce qui va être mis en avant pendant près d'un mois pour ensuite loger seuls et ceux qui ont peut-être moins de moyens. Dernière question, je l'ai posée à Gilles tout à l'heure. Pour vous, ces JO et l'ESS seront réussis si, Clémentine, Benoît, pour clore notre échange. Clémentine.
Moi, je vais un peu paraphraser ce que Gilles a dit parce que je suis d'accord. Les Jeux seront réussis si, les spectateurs se rendent compte du travail qui a été fait pour intégrer des entreprises locales dans les services dont auxquels ils auront accès en étant détenteurs de billets ou pas d'ailleurs, ce sera aussi le cas, le travail est déjà en route sur les fan zones, et puis ce sera réussi évidemment si ce n'est pas un one shot et que c'est la méthodologie qui a été mise en place a suffisamment fait la démonstration que c'était possible pour être reprise par des collectivités par exemple ou par les grandes agences de l'événementiel sportif qui sont mobilisées dans le cadre des Jeux pour qu'elles une fois avoir été challengée, qu'elle continue à se doter d'ambitions aussi importantes d'un point de vue social et environnemental. En collaborant avec des structures de l'ESS, ce serait génial.
Et pour vous, Benoît, vous aurez quasiment le mot de la fin. Donc, ces Jeux olympiques et l'ESS seront réussis ici.
Ces Jeux seront réussis s'ils réussissent à embarquer une très grande partie de la population, s'ils réussissent à changer le regard que l'on peut porter sur le sport, l'activité physique et sportive en France, si ça contribue à être un formidable accélérateur de l'entrepreneuriat social dans notre pays, si tous les acteurs, les entreprises et des banques populaires, des caisses d'épargne qui sont partenaires de ces jeux réussissent à embarquer encore plus leurs clients, leurs collaborateurs, leurs sociétaires dans cette formidable aventure.
Merci beaucoup à tous les trois, même si Gilles nous a quittés. Merci beaucoup Benoît de votre témoignage parce que je trouve intéressant aussi de pouvoir montrer qu'une banque c'est pas juste un logo sur des cartes bleues et des supports de com, mais c'est vraiment aussi une action et que cette action elle est conjointe avec le tissu de l'économie sociale et solidaire parce que les canaux on l'a pas présenté mais vous n'êtes pas que la plateforme ESS 2024, vous accompagnez ces entreprises innovante au quotidien à Paris et que tout ça c'est un joli triptyque et on sait bien que pour tenir debout un tabouret doit avoir trois pieds. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Nous on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique Un Max Déco et on retrouvera nos 7 minutes pour changer le monde. On continuera dans le domaine du sport avec le Comité National Olympique Français et Sportif Français pour parler d'une petite application qui s'appelle Ma Petite Sponso. Vous en saurez plus tout de suite après. Merci à tous les trois, à très bientôt et maintenant on retrouve tout de suite Maxime.
Maxime Dupont.
Et on retrouve notre sportif de l'écho. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, on va parler de financement de la transition climatique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce financement, Maxime ?
Oui, ou plutôt pour être plus précis, financement du réchauffement climatique. Ah ouais. En revenant sur la parution du rapport annuel Banking on Climate Chaos, il y a deux jours, un rapport publié par cette ONG qui fait le point sur le financement mondial des énergies fossiles par les plus grandes banques de ce monde.
Alors, qu'est-ce que nous apprend ce rapport, en fait ?
Eh bien, premier chiffre, le financement des énergies fossiles a été l'an passé, en 2022, de 673 milliards de dollars, dont 150 pour des entreprises qui lancent des nouveaux projets d'exploitation de charbon, de pétrole ou de gaz. Difficile d'y voir une bonne nouvelle quand on sait que les énergies fossiles, leur extraction comme leur consommation, sont la principale cause du réchauffement climatique.
Alors, mais ce chiffre est-il en augmentation ?
Et non, il est en repli de 16%. Et l'on se prend donc à espérer qu'on aurait dépassé le pic de financement et que enfin l'argent allait être de plus en plus fléché vers des énergies plus propres. Et là, patatras, cette réduction s'explique en fait par les énormes profits réalisés l'an passé par les entreprises en question, à la faveur de la crise de l'énergie déclenchée par la guerre en Ukraine, super profits qui permettent en fait à ces entreprises d'avoir moins recours au financement bancaire.
Alors, où sont situées les banques qui financent ces montants, Maxime ?
Sans surprise, en Amérique du Nord, où 4 banques américaines et une canadienne trustent les premières places. Mais cocorico couac, ce sont en Europe les banques françaises qui sont en haut du classement pour notre vieux continent. 3 banques qui, c'est amusant, communiquent justement en ce moment, dans nos rues, fortement sur leurs engagements climatiques, alors même que ces 3 banques ont investi pas loin de 16 milliards de dollars l'an passé sur de nouveaux projets d'énergie fossile. Et puis cocorico gros couac, sur un temps un peu plus long, on trouve l'une de ces banques françaises au 4e rang des financeurs mondiaux depuis 2016.
Alors, que disent ces banques, Maxime ?
Elles essaient de répondre. Elles disent que ces chiffres calculés par les ONG sont fantaisistes. Et elles n'en disaient pas autant quand les chiffres en question leur étaient plus favorables. Mais le fait même qu'elles contestent ces chiffres peut peut-être faire naître un soupçon d'optimisme. Que le sujet soit enfin à l'agenda est en soi une bonne nouvelle, parce qu'il faut bien admettre qu'il y a quelque chose de proprement hallucinant à passer tant de temps à parler des évolutions de comportement individuel et collectif qu'il faudrait faire advenir pour nous donner collectivement une chance de limiter le réchauffement climatique dans des proportions à peu près soutenables, et en parallèle de si peu parler de la source première, qui est toujours la même, le financement, l'argent, tout ce qui fait tourner notre système capitaliste.
Absolument, Maxime. Alors après, elles ont toujours aussi les bons arguments de dire que c'est long, c'est du long terme, mais qu'elles vont y arriver et qu'elles se sont fixées 2050, et puis après 2075, puis 3000. Bref, alors qu'est-ce qu'on doit penser de tout cela, finalement ?
Eh bien, tout simplement que tant que le système financera à ce point les énergies fossiles, aucun espoir de respecter les accords de Paris n'est justifié. Et ce, alors même que ces mêmes banques promettent à coup d'engagement qu'on rasera gratis en 2050. Pour tout dire, l'écart entre ce qui est communiqué et ce qui est fait devient très gênant. Mais penser que cet écart va se résoudre du côté de l'action et non de celui de la communication relève d'un optimisme béat. Et compter sur l'intervention du politique sur ce sujet relève carrément d'un rêve anachronique. Allez, promis, la semaine prochaine, une chronique un petit peu plus optimiste.
Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Nous, on continue avec nos 7 minutes pour changer le monde. Je sais que vous êtes fanat de sport et je ne sais pas si vous connaissez l'application qui s'appelle Ma Petite Sponsor, qui vous permet, grâce à vos achats dans les magasins, de pouvoir financer le club sportif de votre choix.
Ah, voilà. Très belle initiative.
Voilà, et c'est une initiative du Comité National Sportif Olympique Français. On reçoit tout de suite Sébastien Poirier, son vice-président.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, et on continue dans le domaine du sport avec cette fois-ci le Comité National Olympique et Sportif Français qui a lancé début février 2023 une petite application qui s'appelle Ma Petite Sponsor. On va voir de quoi il retourne et je suis ravi d'accueillir le vice-président du Comité National Olympique et Sportif Français, Sébastien Poirier. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour à vous.
Merci beaucoup donc d'être avec nous. On va évoquer justement cette petite sponsor, cette petite application qui permet de lier, parce qu'on le sait, Sébastien, quand je dis on le sait, ça fait un peu BFM TV quand je dis comme ça, mais on le sait bien, le sport, c'est pas simplement le PSG et des clubs qui brassent des milliards, c'est une quantité astronomique de petits clubs, de petites fédérations, parce qu'il faut pas oublier que les fédérations, elles sont pas toutes pourvues comme les grosses fédérations et qu'il faut les accompagner. C'est ça l'objet de la création de Ma Petite Sponsor.
L'idée, c'est d'offrir, et c'est la première fois à ma connaissance que le CNOSF s'inscrit dans cette logique, un outil accessible au plus grand nombre, évidemment aux 160 000 clubs fédérés auprès de toutes nos fédérations, mais également auprès du grand public, licenciés, adhérents des clubs et amoureux du sport de façon très générale.
Alors, quelle a été la genèse de cette... Alors, d'abord, dites-nous ce que c'est cette application Ma Petite Sponsor. Je l'ai dit, je pense, très rapidement. L'idée, c'est de mettre en relation en fait des entreprises et les 160 000 clubs avec des sponsors potentiels autour de chez eux.
Alors non, c'est un peu différent. C'est un système de cashback. Hein, vous savez que le système de cashback aujourd'hui se développe. Alors, le cashback, qu'est-ce que c'est ? C'est une tirelire que l'on se constitue au fil de ses achats. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la consommation des licenciés, des adhérents des clubs ou des supporters des clubs, leur consommation quotidienne, leur petite consommation, puisse alimenter une tirelire. Et cette tirelire, elle est solidaire parce que les utilisateurs de l'appli Ma Petite Sponsor ont l'obligation de verser 50% de cette tirelire, de ce cagnottage, de cette cagnotte. Eh bien, ils ont l'obligation de verser 50% de cette cagnotte à un club, le club de leur cœur, le club qu'ils auront choisi pour le versement de cette cagnotte. Donc, il est, c'est en cela, si vous voulez, que les consommateurs économisent avec un réseau de partenaires économiques. Et cette économie, à minima, à 50%, est reversée automatiquement sous forme de dons au club qui aura été choisi comme étant le club soutenu par le par l'adhérent.
Alors concrètement, ça fonctionne comment? Il faut télécharger l'application?
Exactement. Donc il faut télécharger l'application, il faut donc s'inscrire, tout un système de paramétrage pour la première connexion évidemment, système classique de cashback. Et le club, lui, il est référencé dans l'outil et donc le consommateur choisit le club de son cœur. Et donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur une appli de proximité à destination de tous les clubs, y compris le plus petit club dans notre beau territoire, et bien peut être accompagné naturellement par des personnes qui ont une affection particulière pour le club.
Et 2 février 2023, on est quasiment 2 mois après le lancement. On en est où? Ça marche plutôt bien? Il y a encore des leviers de communication pour faire connaître cette application?
Bien sûr, c'est un travail que nous menons actuellement d'acculturation de l'outil informatique. On souhaite embarquer également les fédérations dans ce projet et leur expliquer tout l'intérêt qu'elles ont à fortement communiquer auprès de leur club pour justement qu'ils s'approprient l'outil. Et puis en parallèle de cela, nous, CNOSF, on a fait un travail d'information auprès de nos territoires à travers les comités régionaux et puis les comités départementaux pour que l'information soit vraiment dirigée au plus proche du territoire. Donc c'est le travail que nous menons actuellement. Aujourd'hui, entre le 2 février et aujourd'hui, on a un beau taux de retour dans le sens qu'on a beaucoup de personnes qui ont téléchargé l'application. Donc c'est un travail qui est positif.
Maintenant, il faut qu'elle s'en serve.
Exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous les clubs qui l'ont déployé, qui se sont appropriés cet outil, aujourd'hui, on trouve le bénéfice très facilement. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est on touche tous nos clubs, y compris le plus petit club. On est sur la proximité, on est sur un système avec des grandes enseignes. Mais ce que l'on souhaite également, c'est que les partenaires, les sponsors des clubs, du plus petit club de France, eh bien, puissent s'associer à ma petite sponsor en offrant une réduction sur ses prestations ou sur les ventes de biens. Et donc, alimente naturellement l'accompagnement qu'il peut faire auprès des clubs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget moyen d'un club fédéré avoisine les 12-13 000 euros. C'est ça le budget moyen d'un club. Sur ces 12-13 000 euros, vous avez à peu près 1 000 euros qui relèvent du partenariat privé au sens strict du terme. Et donc aujourd'hui, nous, on a fait une simulation concernant un sponsor. Si vous avez une quinzaine d'utilisateurs sur une consommation moyenne annuelle, vous retrouvez vos 1 000 euros en plus. Donc on peut vraiment très facilement, sans effort, participer au financement du sport à travers ce système. Alors,
je vois le temps qui file et on pourrait en parler pendant des heures, mais est-ce que les clubs peuvent aussi aller démarcher leurs commerçants de proximité, j'ai envie de dire le boulanger, le boucher? Est-ce qu'on peut aller les démarcher, les faire rentrer, c'est-à-dire double solidarité des commerçants locaux avec le club sportif d'à côté?
Exactement, tout à fait. C'est tout l'intérêt aussi. C'est vraiment une démarche de proximité. Donc l'adhérent et le club qui peut démarcher ses commerçants partenaires. Et en effet, ils peuvent s'inscrire dans la démarche de ma petite sponsor, en sachant que en moyenne, on a un cashback qui avoisine quelquefois 1,20€, 1,50€, 1€, 1,80€. Mais c'est la masse qu'on va ruisseler sur tous nos clubs. Et ce qui est intéressant aussi dans cette vision solidaire des choses, c'est que le club de basket qui ira démarcher son commerçant favori, la pizzeria, la pâtisserie, eh bien, en fera bénéficier toute la communauté sportive du territoire.
Donc c'est vraiment vertueux dans tous les point de son développement. Merci beaucoup Sébastien Poirier, on est obligé de se quitter parce qu'on arrive au terme de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans l'Écho des Solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr, sur toutes les plateformes de podcast, si vous voulez nous réécouter à l'heure que vous voulez, quand vous voulez. Nous, on est toujours très heureux de vous retrouver à l'écoute des programmes de RCF. Bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir. We'll be right back.